Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
8 heures à Bamako et à Bankass dans la région de Mopti. Merci d'écouter Studio Tamani sur l'ensemble de ses radios partenaires. Voici le journal. Menace sur le fleuve Niger, le gouvernement adopte des mesures pour suspendre l'extraction de l'or par dragage sur les cours d'eau au Mali durant une année. Objectif, protéger les cours d'eau et les populations. La mission des Nations Unies au Mali a publié hier son rapport définitif sur l'attaque de Koulogompul en janvier dernier. Ce rapport indique que l'attaque a été commise par des chasseurs d'Onzo parlant Peul, Bambara et Dogon. Sport, football, Mali, Italie, c'est l'une des affiches des quarts de finale aujourd'hui à 16h30 en Pologne. Voilà pour les titres, le développement dans un instant avec Sekou Gadigo. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Un arrêté interministériel a été signé le 15 mai dernier pour stopper l'extraction de l'or par dragage sur le cours d'eau au Mali pendant une année. Parmi les ministères concernés, celui des mines et du pétrole ainsi que le département chargé de l'environnement et du développement durable. Selon les autorités maliennes, ces pratiques causent des dommages aux différents cours d'eau et polluent l'eau consommée par les riverains. Le compte-rendu de Maman Babakunta.
Selon la ministre des Mines et du Pétrole, cette mesure vise à protéger les cours d'eau et les populations. Et des actions sont en cours pour mettre fin à cette pratique, annonce Mme Lelenta Hawababa.
Si vous voyez la couleur du fleuve et le dégât que cette activité est en train de causer au sein de ce fleuve, vous ne pouvez pas imaginer. Certes, il y a des actions avec d'autres départements, d'autres associations telles que l'OMBS et la VFN, mais ce qui concerne le ministère des Mines, c'est d'éradiquer complètement cette activité.
L'activité est faite avec des produits dangereux comme les cyanures et les mercures qui sont très néfastes pour la santé humaine et environnementale. Madame Delenta, ministre des Mines et du Pétrole.
Les pratiquants qu'on a pris sur le fleuve en train d'exercer l'activité sont déjà connus. Les investigations vont continuer pour identifier ceux qui sont derrière ces exploitants qui se trouvent présentement au niveau de la brigade fluviale qui seront remis dans les mains du procureur pour les autres procédures qui ne dépendent pas du ministère des Mines.
La ministre précise aussi qu'à ce stade, aucune mesure collective n'est prise avec les pays voisins pour faire face à ces menaces.
Chacun essaie de faire au maximum au sein de son État pour interdire l'activité. Ce que les autres pays ont fait, ils ont commencé par la sensibilisation, tout comme on est en train de faire, et après, c'est la force qu'il a fallu pour l'interdire complètement.
Nous allons poursuivre, nous allons prendre des dispositions énergiques pour que cette pratique qui est interdite, illégale et destructrice puisse être arrêtée définitivement dans notre pays, a promis le Premier ministre Dr Boubou Cissé il y a quelques jours.
Vous avez la possibilité de réagir à toutes ces informations en faisant un tour sur la page Facebook et le compte Twitter de Studio Tamani ou en laissant un message au répondeur au 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. 8h03 à Sanga, c'est dans la région du Mopti. La mission des Nations Unies au Mali a porté hier à la connaissance de la presse son rapport définitif sur l'attaque commise dans le village de Koulogompul au centre du Mali en janvier dernier. D'une vingtaine de pages, le rapport retient que l'attaque est intervenue dans un contexte d'intensification de violence dans le centre du pays. Il s'agit de tensions communautaires, des actions des groupes extrémistes ainsi que des opérations antiterroristes. Le détail avec Ibrahima Aranjalo.
Le rapport prend en compte trois points concernant l'attaque commise dans le village de Koulogompul. Il s'agit des faits, les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés et l'identification des auteurs de l'attaque. Le rapport établit que ce sont des chasseurs traditionnels d'Ozo accompagnés de certaines personnes en tenue civile qui ont attaqué le village avec des fusils automatiques, des machettes et des couteaux. L'attaque s'est déroulée aux environs de 5h50 le 1er janvier 2019. Au cours de l'assaut, 36 personnes ont été tuées, dont 2 femmes et 4 enfants. 173 cases ont été brûlées, soit plus de 80% des bâtiments. Selon des témoignages établis par le rapport, les assaillants qui parlaient en langue Dogon, Peul et Bambara avaient pris soin d'épargner des femmes du drame. Cependant, certains points n'ont pas été clarifiés par le rapport, notamment la provenance des armes qui ont servi à attaquer le village ou encore le degré d'implication des autorités locales dans l'attaque. Le rapport a également établi un lien en ce qui concerne le mode opératoire entre l'attaque contre Koulogon, Peul et celle qui s'est produite à Eremakono le 13 mai qui cible toutes les deux une communauté. Selon le rapport, une enquête en cours par le gouvernement sur l'attaque contre Koulogon Kloukoumpel a permis de mettre 8 personnes sous contrôle judiciaire et 4 autres en détention.
Bonne nouvelle pour le personnel de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée. Et il devrait obtenir une indemnité de logement à travers l'adoption d'un projet de loi qui a été, c'était hier lors du Conseil des ministres. Les points restants attendront la rencontre sur le dialogue social promise par le gouvernement. D'ici là, le syndicat devrait se contenter des 24 à 25% de ses revendications. Lieutenant Adaouda Konaté, secrétaire général de la section syndicale des surveillants de prison affilié à la CDTM, joint par Ousmane Diko.
Quand même à obtenir une loi relative à l'octroi d'une indemnité de logement au personnel de la prison des services d'intérêt de l'éducation privée. Ça a été adopté hier, donc on attend la signature aujourd'hui, c'est un moment à l'autre. Il y a également beaucoup de dispositions qui sont dans la loi qui restent vraiment en stand-by. On avait demandé l'application intégrale de la loi qui pouvait même résumer les deux autres points. C'est l'article 149 qui vient toujours d'être mis en application à travers l'adoption de ce décret hier. Il reste encore après 3 ou 4 points, il y a quand même un point d'accord, mais qui ne sont pas encore mis en œuvre. Donc, nous pouvons dire que la satisfaction, quand on essaie de faire un petit calcul, de 25 ou pas.
Les autorités scolaires envisagent de prolonger l'année scolaire jusqu'en fin juillet afin de sauver l'année après 6 mois de grève des enseignants. Pour réussir cette mission, les responsables scolaires demandent l'implication de tout un chacun et à tous les niveaux. Madame Kone Rakiatou Dia est la directrice de l'Académie d'enseignement de la rive gauche. Elle est au micro de Mohamed Ali Agaleida.
J'ai un appel vibrant à lancer à tous les acteurs de l'école, les collectivités, les CGS, les parents d'élèves, les maires, les élèves, les enseignants, tous ceux-là qui peuvent contribuer à ce que l'école malienne puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, nous n'avons plus de temps à perdre. J'invite les parents à sensibiliser les enfants. Les CGS à sensibiliser les enfants. Les enseignants sont là, disponibles à nous aider pour que nous puissions terminer le programme. Donc, chaque parent, où qu'il soit, le matin doit réveiller son enfant pour lui demander de regagner les classes. Aujourd'hui, nous n'avons pas une heure de temps à perdre. Nous n'avons pas 30 minutes à perdre. Nous devons nous donner au travail, rien que le travail.
À l'instant, c'était Madame Kone Rakiatou Dia. Elle est la directrice de l'Académie d'enseignement de la rive gauche de Bamako. Elle était interrogée par Mohamed Ali Ag Aleida. 8h07 à Bamako. Comment lutter contre la consommation des stupéfiants sur la jeune génération? C'était la thématique de la 20e édition Grand Grain, une initiative de Mohamed Salia Touré, ancien président du Conseil national de la jeunesse. Ce dernier pense que les multiples conférences, débats classiques ont montré leurs limites, d'où l'idée d'aller rejoindre les jeunes au quartier, dans les grains, ce lieu où les Maliens se retrouvent fréquemment autour du thé pour taper, pour parler des sujets divers. Notre reporter Lendi Moussa Diallo a assisté à cette édition de Manyambougou. Voici son compte-rendu.
Ce dernier samedi du mois de Ramadan au quartier de Manyambougou du district de Bamako, sous une forte pluie, a vécu la 20e édition du Grand Grain. Il était 22h moins lorsque les jeunes du secteur ont installé les bâches pour un moment d'échange. Une approche qui permet de mieux toucher les jeunes, explique Mohamed Salia Touré, initiateur et ancien président du Conseil national de la jeunesse, CNJ.
Pourquoi on vient dans les grains? Parce que c'est là où on retrouve les jeunes. Nous avons deux façons de les sensibiliser. Soit on les transporte dans une salle pour aller les former, les sensibiliser. C'est qu'on a toujours utilisé et qui n'a jamais fait d'impact. Ou le sens inverse, c'est-à-dire aller les retrouver là où ils se trouvent. Ils sont tous dans les grains, les jeunes.
Il s'agit d'informer, de sensibiliser et de conscientiser les jeunes sur place dans les quartiers. D'où le passage d'Angélie Griot à chaque Grand Grain pour introduire le débat. Un nom de famille est choisi au hasard pour développer son historique. Sambala Kanouté, animateur de la rubrique Kounoublon, le vestibule d'hier.
C'est comme une école de savoir. Quand on évoque le vestibule d'hier, pas de doute, c'est une école. C'est donc dans ce cadre-là que j'interviens. C'est moi-même qui choisis le nom de famille, mais d'autres personnes peuvent faire des propositions. La connaissance que j'ai acquise auprès de mes grands-parents, je la partage. La quête du savoir ne finit jamais.
Il était 23h passées et après plusieurs interventions des uns et des autres, deux jeunes frustrés claquent la porte. il pense être ignoré par le modérateur de la soirée, Mohamed Sidibé, dit Seiba.
Je rentre à la maison parce qu'à plusieurs reprises, je demande la parole sans succès par rapport à la thématique d'aujourd'hui qui est sur la consommation des stupéfiants. La solution que nous avons trouvée dans le quartier Mali, c'était d'abord la sensibilisation. Mais ils sont trop têtus, ces jeunes-là. Voilà pourquoi on a commencé à les chicoter et on amène certains chez leurs parents.
Cette rencontre hebdomadaire a débuté à Missabougou en janvier dernier avec quelques personnes. Aujourd'hui, le Grand Grain mobilise plus de 100 jeunes. La 21e édition est prévue à Badalabougou ce dimanche 9 juin à 16h.
Un mot de sport à présent, Coupe du Monde des moins de 20 ans en Pologne. Le Mali joue cet après-midi contre l'Italie en quart de finale. Victoire impérative pour les Aiglons. S'ils veulent accéder aux demi-finales en première heure, la Colombie en découdra avec l'Ukraine.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Actualité régionale, 36 morts et 187 blessés, c'est le bilan des accidents de circulation survenus dans la région de Koulikoro au cours du mois de mai 2019. C'est ce que signale le rapport mensuel de la Direction régionale de la protection civile publié hier. Selon le directeur, la situation est alarmante dans la région de Koulikoro en termes d'accidents de circulation, avec 70 morts entre janvier et mai 2019 contre 29 durant toute l'année 2018. Les jeunes ruraux de Koutiala réclament l'application correcte des textes et lois relatifs au Fonds national d'appui à l'agriculture. Cette réclamation a été faite par leur président lors d'une rencontre d'analyse concertée sur la problématique du FNA la semaine dernière, organisée dans la localité par la coopérative féminine Koto-Nyogontala du village de Togonasso. Les jeunes exigent l'octroi des 15% promis aux jeunes et aux femmes par les textes du FNA. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Présenté par Sekou Gadjigo, la mise en onde est assurée par Gagny Kanté. Merci de l'avoir suivi.